cœur à miettes.
Coup de cœur.
Mon cœur m'a lâché.
Avoir le cœur lourd.
Le cœur qui palpite.
Mon cœur m'a trahi.
Sans cœur, on ne peut rien ressentir.
Ayez le cœur bien accroché pour une explosion d'émotion.
Ah. Waouh.
Bon.
Hein?
Waouh.
Ah. Oh.
Bon.
Éclat de rire avec les jingles.
Différentes émotions avec des témoignages.
De la bonne humeur avec Benoît et Frédéric, les rugbymen.
Et beaucoup de sensibilité avec Thierry Flamand, journaliste, reporter d'images.
À vos marques, prêts, ressentez.
Je m'appelle Léa et ça fait 4 ans que je fais de la Zumba. La Zumba, c'est un mélange de danse et de fitness, généralement sur de la musique latine. Ce que je ressens quand je pratique cette danse, c'est une sensation de bien-être, de liberté et d'évasion. Car je peux me tromper dans les pas, sans que ça ne dérange personne. La Zumba, c'est à la fois du sport, mais aussi une façon de ne plus penser à rien. Une façon d'oublier. La première fois que j'y suis allée, c'était un peu par hasard, pour découvrir. J'ai tout de suite accroché, parce que ça me permettait de me défouler, sans jugement de la part des autres. Je suis bien dans ma peau lorsque je danse. Je ressens de la joie et je garde le sourire. Et puis ça reste quand même du sport, donc ça donne bonne conscience.
On garde le rythme et on file au centre d'entraînement du club de rugby de Hoche.
Entre deux séries d'abdos, interview, émotion avec deux rugbymen du FCAG.
Moi c'est Benoît Bouriste, je suis ancien rugbyman professionnel. J'ai arrêté le rugby pour être dans l'agriculture.
Je suis à peu près dans le même cas que Benoît, j'étais professionnel pendant 10 ans. Et avec la descente du club d'Hoche en 3ème division, je suis devenu plus réactif. Donc mi-temps au rugby et mi-temps à la boucherie. Je m'appelle Frédéric Medves.
Pourquoi jouez-vous au rugby ?
Moi, je voulais faire du sport. Après, le rugby s'est imposé comme ça dans ma vie. J'ai essayé pas mal de sports, le basket, le judo. Et un ami m'a proposé le rugby et j'ai accroché. Et voilà, j'ai plus lâché depuis.
Et pour moi, c'est de famille. Mon père jouait pour rugby, donc du coup, j'ai suivi. Et c'était un loisir au début, après ça a été mon métier.
Quelle sensation vous apporte de jouer au rugby ?
Il y a beaucoup d'adrénaline en fait. C'est les moments les plus forts, c'est presque ceux en dehors du match. C'est l'avant-match, comment on le prépare. On monte en pression et une fois qu'on est dans le match, en fait, on vit les choses. Mais on n'a plus la sensation de réfléchir. Quoi. On cherche à avoir la victoire, mais c'est en fait les automatismes qui reviennent par rapport à tout ce qu'on a travaillé la semaine. Et puis après, c'est un défouloir aussi, ça permet de se lâcher, de faire exprimer son corps différemment de la vie de tous les jours. C'est une sensation de bien-être, de partage, d'être bien avec les autres. Et voilà, on a quand même l'esprit de compétition, la gagne. Et c'est vraiment tout un mélange de sensations qui est très appréciable.
Quand vous vous faites plaquer, vous ressentez quoi ?
C'est toi qui plaque.
Je ne me fais pas plaquer. Le rugby, c'est un sport de contact, donc on est préparé à ça. C'est sûr qu'on a l'impression que quand on regarde un match de rugby, ça doit faire mal. Mais en fait, notre corps est préparé toute la semaine, et aussi bien mentalement que physiquement, à recevoir les impacts, comme dans tous les sports de combat. Un plaquage, ça fait vraiment partie du rugby. Il y en a des centaines dans un match, donc on ne se prend pas la tête avec ça.
Comment se nourrit l'esprit d'équipe ?
En faisant des bons matchs, et ensuite surtout après ça se fait en dehors du terrain, en faisant des... comment on appelle ça ?
Les troisième mi-temps.
Oui, aussi, les troisième mi-temps, mais après des activités. En principe, en début de saison, quand on crée un groupe, on part souvent en stage, et dans ce stage, on fait des activités ensemble, collectives, pour nouer des liens entre les joueurs qui sont anciens et les nouveaux.
Quelle sensation avez-vous après une victoire et une défaite ?
La défaite est vraiment quelque chose qui, nous, en France, est très mal vécu. Je parle de certains pays anglo-saxons, surtout au Pays de Galles, où, en fait, dans le championnat, il n'y a pas de descente ni de montée. Donc, du coup, ils jouent plus pour le plaisir. Mais ici, nous, en France, que ce soit de top 14 ou même au plus bas niveau, il y a quand même une montée et une descente. Et du coup, les défaites sont toujours mal vécues, quoi. Et déception, prise de tête, et après, une remise en question. Sportif de haut niveau, c'est ça. Si on ne se remet pas en question, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Tout simplement.
Dans l'ensemble, c'est sûr qu'on préfère toujours gagner et avec, en ayant mis la manière. Donc c'est toujours une question de sensation. Et voilà, il faut savoir quand les victoires sont belles et les défaites aussi peuvent être belles des fois.
Pouvez-vous nous raconter un souvenir marquant ou une émotion forte dans votre carrière?
Quand on a été champion de France de Pro D2, où sur 30 matchs, on en perd juste 5. On a fini premier et ça a été une saison inoubliable parce que moi je suis né ici, c'est mon club de cœur et donc du coup c'est toujours bien d'être champion de France avec son club de cœur.
Ici avec Koch, on a été champion de France et en Pro D2 et en Espoir. En Espoir c'était particulier parce que c'était toute une génération de joueurs ensemble et puis ça se jouait sur une finale. Donc c'était un moment vraiment intense et que je garderai en mémoire jusqu'à la fin de mes jours.
Quand j'avais 15 ans, j'étais avec un garçon. Avec lui, j'ai vécu tellement de choses. Et cet amour était le plus fort que j'ai pu vivre jusque-là. Mais les choses ont changé lorsque j'ai rencontré sa meilleure amie. Cette personne faisait tout pour me mettre à bout. Et celui que j'aimais ne me défendait pas et prenait toujours son parti. Du jour au lendemain, j'ai décidé de tout stopper, malgré l'amour que j'avais pour lui. Il m'a mis en colère. J'étais tellement triste de me dire que je l'avais perdu. Ça a été très dur. J'ai éprouvé de la haine, mais aussi un gros dégoût. Maintenant, je n'éprouve plus rien pour lui, à part de la pitié. Le point positif, c'est qu'après cette mauvaise expérience, j'ai trouvé mieux.
Que signifie ressentir pour vous?
Je sais pas. Aucune idée.
C'est quoi ces questions que vous posez, vous?
Ressentir.
Ressentir quoi?
Un sentiment, une émotion.
Ah, une émotion, oui.
Vivre les choses.
Ça peut être sentiment amoureux, affectif, tout ce qui est amitié. Sentiment de peur, des sentiments de stress. J'ai plus.
L'été dernier, je suis parti pour la première fois seul, sans mes parents. Je peux remercier ma mère, elle m'a fait confiance. Un collègue avait un appart sur Osegor. C'était magique, cette sensation d'être autonome et responsable. Je savais que si je faisais une bêtise, j'aurais à en assumer les conséquences, seul. Être à la mer avec des potes, c'était génial. Si on voulait faire quelque chose, on le faisait. Par exemple, on voulait aller en boîte, on y allait. C'était vraiment cool. On avait le temps de faire ce qu'on voulait. J'ai ressenti de la joie et de la liberté. Il n'y avait plus de problème d'horaire. Chez moi, ma mère me dit de rentrer à une certaine heure, alors que là, je n'avais pas d'heure. Les après-midi, nous allions à la plage et bronzer un peu. Ce séjour m'a appris à être plus responsable, car mes parents n'étaient pas derrière moi. Et quand je suis rentré, je leur ai dit que tout s'était bien passé. C'était la réalité. J'étais heureux qu'ils me l'aient fait confiance. J'ai hâte que ça recommence. J'espère repartir l'été prochain, au même endroit, pour ensuite faire de nouvelles rencontres.
Qu'as-tu ressenti lors de tes 18 ans?
Oula, rien du tout.
Aucun changement. Ben, tant que t'as pas la voiture, en fait, il n'y a aucun changement.
La même chose que lors de mes 17 ans. C'est-à-dire rien.
Que ressentez-vous à l'idée d'avoir bientôt 18 ans?
Bon, ça me vient pas à l'esprit, j'ai que 15 ans pour l'instant. Donc.
Le soulagement, le permis, le travail.
Et à 18 ans, je pense que ben, tout s'est permis pour moi, donc ça me fait ressentir de la joie. Un peu de liberté aussi.
Et un peu de tristesse, parce que j'aime bien être petite.
de la peur. Et du stress aussi. Parce que je sais qu'à 18 ans, mes parents ne pourront plus m'aider ni rien, il va falloir que je me débrouille.
Ressentir, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. J'ai été une victime presque toute ma scolarité. J'ai eu droit à des insultes racistes parce que je suis à moitié danois. On me disait même que je ne servais à rien. Je n'avais plus l'impression d'être à l'école ou au collège, mais dans un abattoir. Je me forçais quand même à y aller tous les jours, peu importe ce qui se passerait. J'estimais devoir faire face à mon quotidien. À la fin, toutes ces insultes, ça devenait normal. Je ressentais beaucoup d'émotions mêlées, la colère, la haine et un sentiment de vengeance. Pour me calmer, j'écoutais beaucoup de musique, regardais des vidéos du style scènes de combat de film, vidéos de parcours, et je restais proche de mes amis. À partir du lycée, les choses ont commencé à changer. J'ai enfin pu souffler, me faire une place dans le lycée. C'était la fin de l'enfer. Mais j'ai jamais oublié ce qui m'est arrivé. Je vis avec. Je suis devenu plus dur, plus froid, parfois plus solitaire et plus méfiant envers les gens et surtout envers moi-même.
Avoir une peur bleue.
Je saute de joie.
Avoir une dent contre quelqu'un.
Verte de jalousie.
Croquer la vie à pleines dents.
Le jour où on m'a demandé en mariage, j'avais 18 ans. J'ai ressenti de la joie, du bonheur. C'est le plus beau souvenir de ma vie. Mais j'ai aussi ressenti de la tristesse, du désespoir, car je devais quitter ma famille et mes amis pour commencer une nouvelle vie dans ma future famille à Dakar. J'ai oublié de vous dire, toute cette histoire se déroule au Sénégal. Cet homme, on s'est connu pendant 5 longues années avant qu'il ne me demande en mariage. Et le destin nous a réunis pour toujours. Sauf que je suis en France pour mes études et lui, il est au pays. Le fait que je sois loin de mon mari, ça me rend triste, découragée parfois. Je suis dans un pays où je ne connais personne à qui confier mes problèmes, échanger des mots. C'est très dur pour moi. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir un mari qui m'aime et qui m'aide à réaliser mes rêves. Mais je suis malheureuse qu'on ne vive pas ensemble à cause de mes rêves. Une fois obtenu mes diplômes, je retournerai auprès de lui et je ne ressentirai que du bonheur.
Bienvenue à la roue de l'émotion. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour les 3 candidats qui sont là en ce jour avec nous. Nous avons 3 candidats là. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Igor Dosgor, je cherche Patator, j'ai 36 ans. Voilà, je suis surfeur.
Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 104 ans, je suis étoile de mer de profession.
Bonjour, je m'appelle Robin, je suis super-héros, 5 super-pouvoirs et j'aide les gens.
Donc je vais vous expliquer les règles du jeu. Donc vous allez tourner la roue. Et dans chaque partie, il y aura une émotion. Et si vous prenez cette émotion, vous allez devoir la jouer. Donc Igor Dosgor, premier tour. Igor Dosgor, ça sera la joie pour vous.
Hier, j'ai réussi à surfer sur un putain de tsunami. J'ai trop géré, j'étais trop fier de moi.
Maintenant, au tour de Patrick. De tourner la roue. Ah oui, c'est vrai que c'est pas facile pour le toit de la mer. Donc ce sera la tristesse pour vous.
Ben en fait vu que je suis une étoile de mer, je me rends compte que c'est de la merde, faut le dire. Parce que je vis sous un caillou, mes voisins c'est un calamar et une éponge, et eux ils sont mulottiques. Et puis hier soir j'ai voulu sortir, j'ai failli me faire écraser par un surfeur. Non franchement, j'ai envie de crever, j'ai essayé de me noyer, ça marche pas. Donc, si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Voilà.
C'était Patrick pour la tristesse. Donc maintenant, on a Robin de Tourner la roue. Donc ce sera la colère pour vous.
Ben moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas avoir de pouvoir. J'en ai marre de devoir rester avec ce Batman qui ne sert à rien et qui s'attribue tout le mérite. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol.
C'était la colère, allez ouais. Donc merci à ces trois candidats d'être venus sur ce plateau. Je remercie les personnes qui nous écoutent ce soir. Je vous donne rendez-vous demain sur Radio Bambino pour de nouvelles émotions. Ouais. Ciao, Bambino.
La première fois que j'ai ressenti de la solitude, c'était pour deux choses, la séparation familiale et l'adaptation à un nouveau lieu. La séparation familiale, ça a été de ne pas pouvoir être près de mes proches dans les moments importants, ou tout simplement de ne plus être chez moi tous les soirs. Et le fait de ne plus être avec ma sœur jumelle, de qui je n'avais jamais été séparée. C'est lié au fait que j'ai changé de lieu. Je suis passée du collège au lycée, et maintenant je suis en internat, donc je ne rentre que les week-ends. C'est dur de trouver de nouveaux repères, apprendre à connaître les autres loin de chez soi. Et pour l'adaptation à l'internat, ce n'est pas toujours simple de se plier aux règles, car on ne doit plus penser qu'à soi, mais également aux choses qu'on fait, et aussi aux autres autour de nous. C'est les règles de la collectivité. Il faut manger à telle heure et non pas à une autre. Les temps de douche, les temps de travail sont réglementés. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et surtout que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut.
Pleurer comme une madeleine.
Avoir des fourmis dans les pieds.
Avoir le cafard.
Heureux comme un poisson dans l'eau.
Avoir des papillons dans le ventre.
Quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. J'en faisais tout le temps parce que ça me rendait très heureuse et compétitive grâce à son côté strict. J'essayais toujours de me surpasser pour être meilleure que les autres. Danser, ça me libérait du monde extérieur. Pour être seule avec mes amis et plus avec mon entourage. Lors d'un gala de danse, j'ai trébuché et je suis tombée de l'estrade. Sur le moment, j'ai eu tellement honte d'avoir arrêté le gala que je n'ai même pas remarqué que ma jambe était cassée. Après ça, mes parents ont décidé de me faire arrêter la danse. Mais voyant que j'étais tellement triste et seule, ils m'ont proposé de ne pas arrêter définitivement, mais juste de changer de danse. J'ai commencé le modern jazz. J'étais très heureuse de pouvoir reprendre. C'était différent, mais ça m'a permis de voir de nouvelles choses. De nouveaux rythmes, de nouveaux pas, une nouvelle façon de bouger mon corps. Et ça m'a permis de m'épanouir autrement dans ma passion.
Et maintenant, on part à la rencontre de Thierry Flamand.
Réalisateur de films et documentaires depuis 10 ans dans le Gers et ancien JRI à la rédaction de France 2.
Alors Thierry, c'est quoi un JRI ?
C'est un terme qui veut dire journaliste reporter d'image. En gros, c'est caméraman, mais au fil du temps, ça s'est appelé comme ça. Et au départ, j'étais curieux que des choses, de la vie, des événements. Mais j'étais photographe. Et puis finalement, le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé avec une caméra entre les mains.
On m'a dit que vous étiez reporter de guerre aussi. Donc, c'est que vous avez le plus marqué entre soit sur le terrain de la guerre, soit sur un reporter d'image.
Avec du recul, aujourd'hui, c'est la force de la survie et de la vie. C'est les gens qui se battent pour résister, pour continuer au quotidien, à avoir, malgré les conditions difficiles, injustes, tout le temps, avoir cette dignité, avoir cette force de prendre des risques pour traverser une rue alors qu'il y a des tireurs embusqués pour aller chercher de l'eau, pour nourrir des bébés. C'est la vie, quoi. C'est la puissance de la vie, malgré l'horreur.
Où êtes-vous parti ?
Je vais peut-être pas citer tout, mais un peu chronologiquement, pour un peu m'en souvenir. Alors, je suis parti sur la première guerre du Golfe. C'était en Irak. Et puis, j'étais en Bosnie, à Sarajevo. Et puis, j'étais au Rwanda. 98, il y avait le Kosovo. Malheureusement, ça ne s'arrête jamais.
Comment vivez-vous l'absence de vos proches lors de vos reportages à l'étranger ?
L'absence des proches... Alors on est effectivement pris dans un tourbillon d'énergie et de concentration qui fait que La pensée des proches est réconfortante, mais à ce moment-là, on n'éprouve pas un manque non plus particulier. On sait qu'on va rentrer, contrairement à ces pauvres gens qu'on va filmer, on sait que nous, on va rentrer.
Ressentiez-vous de l'adrénaline à l'étranger ?
Sur des conflits, oui, beaucoup. Et je dois avouer que c'est aussi une sensation relativement forte, plutôt unique, et qui pousse peut-être à tort, qui pousse à repartir très vite, quoi. Un peu comme une addiction, c'est...
Et est-ce que vous avez déjà eu des problèmes quand vous filmiez les guerres ou des trucs comme ça ?
C'est arrivé au Kosovo en février 98. On était en plein dans les montagnes albanaises, et là, il y a un monastère... orthodoxe, serbe, en plein milieu de ces montagnes depuis des centaines d'années, complètement toléré par la communauté albanaise, donc musulmane, qui est autour. C'est à Dechani, le monastère de Dechani. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a entendu des tirs de roquettes qui partaient d'hélicoptères. On s'est rapproché de l'événement pour voir ce qui se passait, parce que c'est aussi notre boulot. Et là, on a été pris à partie, enfin, on a été bloqué en arrivant dans ce village par des militaires. Ce qu'ils nous ont pris, et sans la suite plus tard, pour des Albanais, des résistants albanais qui appartenaient à l'Utcheka. Et en fait, dans un premier temps, ils ont ignoré qui nous étions, ils nous ont mis en joue, ils ont hésité à nous tirer dessus. Bon, et puis bon, finalement, on a réussi enfin, ils sont venus nous sortir de la voiture un peu manu militari. Ils nous ont retenus quelques jours, trois jours. On a eu la chance de pouvoir... repartir. Un officier est venu nous soulager, un officier serbe un peu plus tard.
Quand vous partez à l'étranger, vous créez des liens avec certaines personnes. Vous gardez contact avec eux ou pas ?
Non. Il se trouve que, et ça c'est pas forcément le côté le plus... Je sais pas, que j'ai apprécié le plus dans ce boulot, c'est qu'on va chercher quelque chose et quand on l'a, on rentre. On n'a pas le temps, quoi. On s'intéresse à une situation, on l'évoque, on en parle... Et on va soit sur autre chose, soit on rentre. On ne sait pas forcément échanger quoi que ce soit ou attacher.
Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui voudrait faire ce métier ?
La première chose à faire, c'est aimer les gens, aimer les autres, être très curieux. Pas avoir de certitude, s'attendre à tout. Et surtout aimer les gens.
Les sentiments les plus forts ont été la haine et le dégoût quand j'ai appris la dégradation de la maladie de ma plus proche amie. J'étais dégoûtée de voir que depuis toujours elle se battait pour suivre son traitement et d'observer une dégradation aussi rapide alors que d'autres ne suivent pas leur traitement, lâchent l'affaire, mais sont en meilleure forme qu'elle. Quand on la voit, on pense que c'est une fille toute petite, toute fragile, alors que c'est une personne très forte et caractérielle. Elle n'a donc pas beaucoup de monde autour d'elle. Il n'y a que sa mère et moi qui l'accompagnons dans n'importe quelle situation. On garde nos problèmes et nos angoisses pour nous, pour ne pas lui donner plus de choses à gérer. Des fois c'est dur, parce que pour l'aider à surmonter sa maladie, je suis toujours près d'elle, à la faire rire pour qu'elle oublie ses malheurs. Mais je suis aussi là pour parler de choses sérieuses. Avec sa mère, on donne tout pour elle. On la fait sortir, on reste un maximum de temps avec elle pour ne pas qu'elle se sente seule. On a une relation très fusionnelle, mais ce qui nous a le plus soudés, c'est quand elle est venue me voir pour l'aider à prendre un choix décisif pour son avenir. Elle devait choisir entre accepter une greffe ou pas. À ce moment, j'ai compris l'importance que j'avais pour elle et je lui ai montré le bon côté des choses pour la faire avancer et qu'elle accepte la greffe. À partir de là, on est devenus encore plus inséparables. On est tous les week-ends l'une chez l'autre. Aujourd'hui, elle fait des examens pré-greffe pour pouvoir être sur liste d'attente d'un greffon. Maintenant, je ressens moins de dégoût et plus d'espoir.
Ne pas avoir froid aux yeux.
Sourire jusqu'aux oreilles.
Être plus mort que vif.
Rouge de colère.
Mon émotion la plus présente est celle que j'ai quand je joue à mes jeux. Il y a une forme de plaisir et d'exaltation. Exemple, dans un jeu où il faut chasser des monstres, le fait de traquer et d'éliminer la cible me rend presque heureux. Voire même exalté. Le prédateur qui devient la proie, ou inversement, c'est excitant, je trouve. Ça montre une forme de supériorité. Il y a aussi les MMORPG, des jeux en ligne multijoueurs, où on incarne une autre personne, et on fait des actions qu'on ne pourrait jamais faire dans la réalité. C'est ce que je trouve exaltant. Pouvoir faire des choses impossibles à faire normalement, viser toujours plus haut, combattre un monstre plus puissant, relever un nouveau défi, c'est ce suspense que je trouve fascinant. Et c'est pour ça que j'adore les jeux vidéo. Quand on est dans un jeu, on est dans un autre monde qui, je trouve, est plus intéressant que le monde réel. On oublie les problèmes de ce monde et on se concentre sur les objectifs de ces mondes factices. On est une autre personne, un autre toi, dans un autre monde, complètement différent du nôtre. Ou au contraire très ressemblant, cela dépend du jeu. Mais dans cette seconde vie, on a ses propres objectifs. Et si on les réussit, on se sent plus grand et plus fort. Voilà ce qu'est l'exaltation des jeux vidéo pour moi. Il est facile d'y entrer, il est plus dur d'en sortir. Car si vous aviez le choix entre un monde fait du problème du quotidien, de petits soucis, et un autre monde, certes factice, avec un environnement nouveau où on peut réécrire son histoire, lequel choisiriez-vous? Moi en tout cas, j'ai déjà choisi.
On vous laisse face à votre choix et à vos ressentis.
On espère que cette émotion... cette émission vous a touché.
Un merci chaleureux à Thierry Flamand, Benoît Bouruste et Frédéric Medves pour leur participation.
Un grand merci à Monsieur Rouziès et Madame Zoria, ainsi qu'à Élise et Colline de Wakadi.
Wakadi, ça veut dire « on a quelque chose à dire ».
Un merci affectueux à toute la classe de première habile du lycée Lavacan et particulièrement à
Sharon,
Lucie,
Thomas,
Marie-Clara,
Léa,
Johan,
Gabriel,
Maëlia
et Océane.
Ciao bambino!
Une équipe qui regarde le crâne, mais le crâne. Mais Jacksonum, mais l'écolium, ou l'hypnophloum. Rugby nes, de m'chiffre charia, قدام بالحا تستنى حبيت وز وز البلبل وفي بالي راك تروم قالوا لي وليت محبول من زيت فاز يتعلون حبيت وز وز البلبل وفي بالي راك تروم قالوا لي وليت محبول من زيت فاز يتعلون تلعب مزيان بلا مندولين يا ولدي بومبينو موسيقى شعل نبعثها وحلوة كيما ريحة النيل غني غني بصوت حنين يا ولدي بومبينو فهمني واش راك تتمنى لازم عيا اليوم تنسيها حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تروم قالوا لي وليت محبول من زدت فاز يا فعلول حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تروم حبيت وزوز يا البلبل